C'est en 1949 que Desmilles a mis en scène l'histoire de Samson avec Dalila, une femme philistine. Ce film fut primé par 2 Oscars et le premier prix pour l'art décoratif, la musique, les costumes et les effets spéciaux. Il faut dire que le récit biblique de Samson est tout à fait extraordinaire. Et comme le film était bien fait, il méritait toutes ses récompenses. Samson a vécu durant une période particulièrement sombre de la nation d'Israël. Loin d'être un mythe, ce personnage est un avertissement pour chacun d'entre nous. Son histoire nous montre également combien Dieu est souverain dans les affaires des hommes. Un jour, Samson décide de se marier avec une fille des Philistins, les ennemis jurés de son peuple qu'il est chargé de délivrer de leur emprise. Je continue à lire dans le chapitre 14 du livre des Juges. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage, et Samson organisa un banquet de mariage, comme c'était la coutume des jeunes gens. Lorsqu'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours de festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me donner la solution, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits de rechange. » « Nous t'écoutons, lui répondirent-ils. Propose-nous ton énigme. » Alors il leur dit, « De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. » Pendant 3 jours, les jeunes gens ne réussirent pas à trouver la solution de la devinette. Chez les Orientaux, le banquet de mariage est une très grande fête et dure jusqu'à 7 jours. Les compagnons de l'époux, ici des Philistins, faux amis, sont chargés d'assurer la sécurité de la noce en cas d'intrusion malveillante. À cette époque, les énigmes sont une occupation populaire pendant les fêtes. Celle que propose Samson se présente en hébreu sous la forme d'un couplet rythmé de 2 vers en 3 temps. Mais il est absolument impossible de la résoudre à moins de lire dans ses pensées. Néanmoins, et afin de stimuler l'auditoire, Samson met en jeu 2 sortes de vêtements. Les premiers sont des tricots de corps en toile de lin rectangulaire que l'on porte le jour et qu'on garde pour dormir. Les vêtements de rechange ou vêtements d'honneur sont des habits de cérémonie brodés. Je continue. Le 4e jour, ils dirent à la femme de Samson, enjôle ton mari pour qu'il te donne la réponse de la devinette, et viens nous la rapporter, sinon nous te brûlerons, toi et ta famille. Est-ce pour nous déposséder que vous nous avez invités? Alors elle se mit à pleurer, tout contre son mari, et lui dit, tu ne m'aimes pas, tu me détestes, tu as proposé une devinette à mes compatriotes, et tu ne m'en as pas révélé la solution. Vois-tu ? Lui répondit-il. Je ne l'ai même pas révélée à mes parents. Comment te la donnerai-je à toi ? Elle le poursuivit de ses pleurs jusqu'au bout des 7 jours de festin, si bien que le 7e jour, harcelé par ses insistances, il lui donna la solution de la devinette. Elle s'empressa de la rapporter à ses compatriotes. Le 7e jour, les jeunes gens de la ville dirent à Samson, avant le coucher du soleil, « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion ?» Il leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé la réponse. » La situation se gâte. Les menaces fusent. La jeune mariée pleure. Exaspérée, Samson cède. Il a perdu à son propre jeu à cause de sa femme, qui a vendu la mèche. S'il avait gagné, la situation aurait été encore pire. Mais d'une manière ou d'une autre, le conflit est proche. Ses parents doivent se faire des cheveux blancs. Avant le coucher du soleil, ou peut-être avant qu'il n'entrât dans la chambre à coucher, car les deux traductions sont possibles. Les jeunes gens donnent la réponse correcte à l'énigme de Samson. Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion? C'est un couplet rythmé avec des vers qui sont à deux temps. La réponse, si vous n'aviez pas la bourse avec ma génisse, est un vers à trois temps, rythmé avec une rime en plus. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 14. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Il se rendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé le sens de la devinette. Il rentra chez lui, bouillant de colère. On maria sa femme à celui de ses compagnons qui lui avait servi de garçon d'honneur. Samson va remplir ses obligations. Il est furieux et sans explication part en laissant sa femme en plan, ce qui est interprété par le père comme une rupture. Il sera alors dans une ville située à environ 37 kilomètres de Tiba, sur la côte méditerranéenne, et qui fait partie de la confédération philistine. Il est furieux alors. Sans tambour ni trompette, il massacre 30 jeunes hommes, leur prend leurs vêtements et retourne sur les lieux du mariage pour les donner aux compagnons de noces. L'Éternel tolère tout ça parce que son objectif est de rompre le statu quo avec les Philistins qui dominent Israël. L'histoire étrange et captivante de Samson continue au chapitre 15 que je commence à lire. Quelque temps après, lors de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme et lui apporta un jeune chevreau. Il déclara « Je veux aller auprès de ma femme dans sa chambre. » Mais son beau-père ne le laissa pas y aller. « J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en haine. Alors je l'ai donnée à ton garçon d'honneur. » « Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus charmante qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Le moins qu'on puisse dire est que les coutumes de l'époque sont des années-lumière en distance de la nôtre. Encore que, bon, passons. Nous sommes en mai, le mois où on célèbre la Pentecôte. Dans ce type bien particulier de mariage, l'épouse reste dans la maison de son père qui ne reçoit pas de dot, mais se voit offrir des cadeaux à chaque visite de l'époux. Lorsque Samson arrive, le père de son épouse se sent très mal dans ses sandales, car il se rend compte qu'il a gaffé en supposant que Samson ne voulait plus sa fille aînée. Il se sent obligé de faire une autre proposition qui convient aux coutumes de l'époque. Ce quiproquo aurait pu se résoudre à l'amiable si Samson n'avait pas été en mission divine contre les Philistins. Je continue. Samson répliqua, « Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Là-dessus, il s'en alla et attrapa 300 chacals. Après quoi, il prit des torches, attacha les animaux deux par deux par leur queue en faisant une torche entre chaque partie de queue. Puis il alluma les torches et lâcha les chacals dans les blés mûrs des Philistins. Le feu ravagea les blés en meule, aussi bien que ceux sur pied, et jusqu'aux vignes et aux oliviers. Les Philistins demandèrent « Qui a fait cela ?» On leur répondit « C'est Samson, le gendre d'un homme de Timna, parce que celui-ci lui a repris sa femme et l'a donnée à son garçon d'honneur. » Alors les Philistins allèrent brûler vifs la femme et son père. Samson leur dit, « Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai cesse jusqu'à ce que je me sois vengé de vous. » Là-dessus, il les battit à pleine couture et leur infligea une grande défaite. Puis, il partit vivre dans la caverne du rocher d'Étam. Samson est décidément un drôle de bougre. Il utilise la force surhumaine de l'Esprit de Dieu pour assouvir sa propre vengeance. Il commence par détruire les trois principales récoltes du pays, ce qui amorce un cycle de violence. Sa première femme, son père et le reste de la famille passent par le feu, ce qui fait que Samson se venge une seconde fois. Le vocabulaire du texte hébreu indique qu'il a massacré beaucoup de monde de manière très brutale et sans pitié. Dieu, qui veut affaiblir les Philistins, tolère l'animosité personnelle de Samson. Tant qu'il conserve sa chevelure intacte, il demeure un surhomme invincible. C'était la seule condition émise par l'ange de l'Éternel lorsqu'il a annoncé sa naissance. Je continue. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire du Juda et y installèrent leur camp, et ils se répandirent dans la région de Lehi. Les habitants de Juda demandèrent « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous ? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait ?» Il répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils lui assurèrent « Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec deux cordes neuves et leur firent sortir de la grotte. La condition des habitants de Juda est pathétique à faire pleurer. Non seulement ils acceptent la domination des Philistins sans broncher, mais ils mobilisent une troupe importante pour arrêter le seul d'entre eux prêt à les délivrer de leurs ennemis. Tant que Samson conserve ses cheveux, il ne peut pas être tué, et pourtant, il veut qu'on lui jure, probablement au nom de l'Éternel, qu'on le livrera vivant aux Philistins. Il formule cette demande afin de ne pas avoir à massacrer les membres de son propre peuple s'ils essayent de le mettre à mort. Je continue. C'est ainsi que Samson arriva à Lehi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les cordes qui liaient ses bras se déchidèrent comme si c'était des fils de lin brûlé. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore toute fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 Philistins. Puis il s'écria, « Avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1000 d'hommes avec la mâchoire d'un âne. » Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramalehi, la colline de la mâchoire. Les Philistins se ruent sur Samson comme précédemment le jeune lion. C'est une très très mauvaise idée, car cela lui donne une excuse pour un massacre en règle. Samson a probablement serti quelques silex pointus dans cette mâchoire encore en bon état pour en faire une arme rudimentaire mais terriblement efficace. Entre ses mains, son cri de triomphe a la forme d'un couplet à deux vers de quatre pieds. En hébreu, le même mot, amor, désigne un âne ou un tas. Il faut reconnaître que Samson est particulièrement impressionnant. Et en lisant son histoire, on comprend mieux pourquoi les metteurs en scène se sont intéressés à lui. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 15. Comme il y avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit « C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces circoncis ?» Alors Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à Lehi, et il en fit jaillir de l'eau. Sans son but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source Aïn Akoré, la source de celui qui prie. Elle existe encore aujourd'hui à Lehi. Samson fut chef en Israël pendant 20 ans, à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Les massacres sous un soleil de plomb dans le désert, ça donne soif. L'Éternel fait donc un miracle semblable à celui qu'il avait fourni l'eau en Israël dans le désert. Samson fut chef juge en Israël aux environs de l'an 1069 avant Jésus-Christ, jusqu'à sa mort en 1049. Cette conclusion est répétée plus loin. Le texte ne nous dit pas si Samson était un chef judiciaire, mais c'est peu probable, car il ne semble connaître qu'une seule loi, la sienne. Par contre, au niveau des prouesses militaires, il a flambé. Nous arrivons au chapitre 16, qui continue l'histoire de Samson. Je commence à le lire. Samson se rendit à Gaza, et il vit une prostituée et entra chez elle. La nouvelle se répandit chez les gens de Gaza qui se trouvaient dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, ils se tinrent tranquilles pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement. À minuit, il se leva. Arrivé à la porte de la ville, il empoigna les deux battants avec les deux montants et les arracha avec la traverse. Puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline en face d'Hébron. Gaza était un important port de mer situé dans le sud de la Palestine et le plus grand centre philistin. Samson y va pour chercher la bagarre. Sa force surhumaine et son invulnérabilité s'accompagnent cependant d'une faiblesse pour le beau sexe, qui finalement le perdra. On pourrait penser que notre héros a trop de testostérone dans son système. Mais en réalité, son problème est surtout moral, car il ne contrôle pas ses appétits sexuels en prenant une femme comme le suggère l'apôtre Paul. De notre côté, il s'est déjà marié une fois, et ça a très mal tourné. Alors pourquoi n'a-t-il pas épousé une Israélite? Le texte ne le dit pas. Des fouilles archéologiques ont révélé que les portes des villes philistines étaient flanquées de salles de garde. Que sont-ils devenus pendant que Samson démolissait tout autour de lui? Ils ont sans doute partagé le sort du premier lion. Tous les os blanchissent encore sous le soleil d'Orient. Samson a humilié les Philistins au maximum. Non seulement il a détruit la porte fortifiée, mais en plus, il l'emmène jusqu'au sommet d'une colline qui se trouve à au moins une demi-heure de marche de la ville. Peut-être plus, puisque 60 kilomètres séparent Hébron de Gaza. Je continue. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Sérec. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dire « Enjeule-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 11 pièces d'argent. » Dalila demanda à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser ?» Samson lui répondit « Si on me lie avec 7 cornes fraîches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Les Philistins ont compris que ce n'est pas la force qui triompheront de Samson, mais ils vont l'avoir par la ruse, en exploitant son faible pour les femmes. La somme d'argent qu'ils promettent à Dalila est énorme, ce qui montre que Samson inspire une crainte considérable aux Philistins. Le héros invincible face aux guerriers bien armés, et sans force pour résister à la séduction de Dalila, dont le nom signifie « la frêle ». Samson se doute de la traîtrise de sa nouvelle femme et commence donc par lui raconter des salades. Il est vrai que des cordes neuves confectionnées avec des tendons d'animaux sont extrêmement résistantes, mais tant qu'il garde sa chevelure, rien ne peut emprisonner ou tuer Samson. Je continue. Les princes des Philistins procurent à Dalila sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle ligota Samson avec ses cordes, tandis que des hommes se tenaient cachés chez elle, dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il rompit les cordes comme se rompt une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson « Voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, dis-moi donc, je te prie, avec quoi l'on pourrait te lier ?» Il lui répondit « Si tu m'attaches fortement, avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Alors, Dalila prit des cordes neuves dont elle le ligota. Puis elle s'écria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Des hommes se tenaient de nouveau cachés dans la chambre, mais il rompit les cordes comme un fil et les fit tomber de ses bras. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi et tu ne m'as raconté que des mensonges. Dis-moi enfin, avec quoi il faudrait te lier ?» Il lui répondit, « Si tu tisses les sept tresses de ma tête dans la chaîne du métier à tisser, et que tu les fixes au moyen d'une cheville, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Alors elle l'endormit, tissa les sept tresses de sa chevelure sur la chaîne du métier à tisser et les fixa avec la cheville. Puis elle s'écria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec la chaîne. Orgueilleux de sa force, Samson accepte le jeu mortel auquel joue cette femme. En commençant à parler de ses cheveux auxquels nul n'a songé, il s'engage sur une voie dangereuse, car cette dernière réponse se rapproche du secret véritable de sa force. C'est le commencement de sa fin. Je continue. Alors il lui dit, « Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. » Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses insistances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. « Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'étais consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant « Venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. » Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les sept tresses de la tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et se dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai !» Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Puis ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la moule à grain dans la prison. Le travail de sape de Dalila a porté ses fruits. Samson, bercé par une femme, a vendu la mèche parce qu'il est devenu arrogant et a tenté Dieu. Il croit maintenant en lui, en ses propres forces. En se réveillant, il s'aperçoit bien qu'il n'a plus sa chevelure, mais il ne pense pas que ce soit bien grave et croit s'en tirer, cette fois-ci encore, au moyen de sa force naturelle. Mais sa chevelure était le signe de son vœu, de Naziréen, qui lui procurait son invincibilité. Le signe ôté, le vœu est rompu, et la puissance de Dieu l'a quitté. Quelle fin misérable! Samson est devenu hautain, et ça l'a perdu. Le voilà, les yeux crevés, qui tourne la meule, la plus vile de toutes les occupations antiques, réservée en particulier aux femmes esclaves. Samson avait reçu la puissance divine qui pouvait conserver à une seule condition, qu'il ne coupe pas sa chevelure. Mais dans son hubris, son orgueil démesuré, il s'est moqué de son don et de Dieu.